Bonsoir à tous. Merci d'être venu pour écouter Aurélien Bélanger, qui fait sa deuxième conférence ce soir. Donc, il est un peu... Et en tout cas, la première en province, je pense. Nous avons choisi d'être deux pour l'affronter. Habituellement, il y a un modérateur, mais derrière son sourire tranquille, on s'est dit qu'il devait y avoir une certaine force, qu'il fallait pouvoir entourer ce garçon, qui a été capable de nous sortir à la rentrée un roman de 500 pages, avec un titre absolument terrorisant pour le littéraire, qui était « La théorie de l'information », un livre dont on a beaucoup entendu parler. Moi-même, nous, on reçoit les livres très souvent à l'avance. Hein. Les libraires, on les reçoit au mois de mai ou au mois de juin. Et celui-là, il a dormi quelque temps à côté de mon lit, parce que je n'osais honnêtement pas l'ouvrir, en me disant c'est comment peut-on faire déjà des livres de 500 pages et après leur trouver des titres pareils. Et puis, la première page était une exergue de Leibniz. Donc là, c'était vraiment carrément de la panique. Et puis finalement, après des semaines de résistance, j'ai ouvert le livre. Gonelle a fait cette expérience-là pour se rendre compte qu'on avait affaire à une sorte de petit phénomène, un livre dont on allait sans doute beaucoup parler, mais qui méritait qu'on s'y arrête. Alors, vous avez dû en entendre pas mal parler. Il y a eu une presse absolument délirante. Pour un jeune auteur, c'est toujours un peu compliqué, surtout quand il sort en même temps que d'autres romans dont on ne parle pas. Et chez Gallimard, ça ne pardonne pas. Ce roman, on y tombe véritablement dedans. On a le sentiment qu'on tombe dans une histoire. Et à mon avis, on y arrive en abandonnant les a priori qui peuvent être ceux qu'on a avec un livre qui va vous parler de choses aussi terribles que la télématique, l'informatique ou l'Internet. Voilà. Déjà, quand je suis tombé sur le mot « steampunk », je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Donc, un sentiment de se dire « bon, on va être arrêté par quelque chose qui est une méconnaissance, quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, on va être soumis à nos propres limites. Voilà. » Alors, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de tenailler Aurélien Bélanger. C'est aussi pour nous venger de cette lecture qui n'a pas toujours été facile, mais qui, en tout cas, a été extrêmement stimulante. Voilà. Alors, il a répondu à beaucoup de questions. On va les lui reposer, tant pis, parce qu'on verra. Et il nous a prévenu qu'il pouvait parfois partir comme ça sur des sentiers et qu'on pouvait peut-être l'interrompre si on avait le sentiment. Mais nous, ce qui nous plaît, c'est effectivement de s'égarer avec les auteurs. Voilà. Alors, le propos du livre, s'il fallait le résumer, c'est raconter une sorte d'équivalent romanesque de 40 ans de la vie française, avec en plus peut-être le futur de cette vie française. Donc, un roman un peu composite. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune écrivain de 30 ans, pour se décider de se lancer dans un roman qui a un sujet aussi impressionnant? C'est la première question.
Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de choses. Des choses positives et des choses négatives. Des choses négatives, c'est que j'ai lu très souvent un roman où on m'avait écrit le grand roman des années 80, et puis en fait, non. J'ai essayé de faire un truc un peu plus complet que ça sur une période de temps donné. J'ai un angle assez resserré qui est l'histoire des communications, mais bon voilà, j'évoque beaucoup d'arguments de cette année, de ces années-là. Ensuite, l'autre chose importante, c'était finalement, bon, moi j'ai 32 ans, le roman est à peu près contemporain de ma vie, donc c'est pas vraiment du passé pour moi. Enfin, si, c'est du passé, mais c'est pas un passé antédiluvien, c'est une période de temps que j'ai vécue. Donc, j'avais des. Que ce soit pour le Minitel Rose, etc., j'avais des sortes de réminiscences d'enfance, d'affiches érotiques géantes. Donc, j'étais légitime, d'un point de vue quasi proustien, à parler de choses comme ça. Et ensuite. Et ensuite, j'avais envie de faire un roman ambitieux, parce que quitte à rater des choses, ça me semblait plus important d'avoir des enjeux élevés et même des enjeux. Théorique élevé, ça apparaît plus maintenant dans le produit fini, mais j'avais vraiment des enjeux théoriques élevés. Ce qui est un peu absurde, hein, parce que ça doit rester un roman, et le but, c'est pas de faire de la théorie, mais ça a été une donnée importante. Ouais.
D'accord. Alors, justement, on voit que c'est l'histoire de ces 40 dernières années de la vie politique, technologique et sociale de la France, qu'on retrouve à travers ce personnage principal, Pascal Ertanger. Alors, on a tendance à dire étranger, je ne sais pas si c'était voulu ou pas, si c'était recherché.
Bêtement, c'était un accident. Après tout, oui, pourquoi pas, ouais. Je l'ai gardé après m'en être rendu compte. Ouais.
Et Pascal, on est d'accord, ça vient du langage de programmation ou c'est aussi pareil, ce genre de choses inattendues
Au début, il ne s'appelait pas Pascal, et puis j'ai fait une recherche des gens qui naissaient en 67, quels étaient les 10 prénoms les plus donnés. Il se trouvait qu'il y avait Pascal, et puis d'un coup, ça marchait parce qu'il y avait le langage de programmation. Et puis il y a quelques points comme ça d'accroche biographique entre Pascal le philosophe et Pascal Ertanger. Ouais. Donc ça tombait bien, ouais. C'était un...
Et justement, à travers ce personnage-là, on reconnaît un certain Xavier Niel. Et alors, pourquoi avoir choisi plutôt l'angle du roman plutôt que celle de la biographie? Parce qu'il faut rappeler que Aurélien Bélanger est aussi l'auteur d'un essai sur Michel Houellebecq. Et pourquoi ne pas l'avoir nommé directement?
Parce que c'est pas lui, et je prendrais en fait la phrase au début, enfin j'ai mis au début du bouquin une citation de Leibniz où en gros Leibniz explique que si on dessine des traits au hasard sur un papier, on peut toujours trouver une équation qui va relier tous ces points et même une formulation mathématique de cette équation qui va relier tous ces points, une théorie célèbre de Leibniz. Et quelque part, j'avais effectivement dans Xavier Niel une quinzaine de points comme ça, parce que j'ai pas fait une grosse enquête, mais j'avais lu un peu la presse spécialisée, c'était avant qu'il devienne très célèbre, c'était avant Free Mobile. Il y a 2 ans, voilà, c'était une sorte de héros pour les geeks. Des amis qui s'y connaissaient plus en informatique que moi m'avaient dit c'est le type un peu différent et un peu exceptionnel dans les télécoms françaises. Bon voilà, j'ai fait une petite enquête, j'ai trouvé une quinzaine de points dont j'avais l'enfance dans le Minitel rose, la naissance en banlieue parisienne, etc. L'incarcération également. Et donc il m'a fallu relier ces points. Mais après c'était tout, j'ai pas regardé beaucoup de vidéos, j'ai pas cherché à le rencontrer, etc. Et clairement, Pascal Hertanger et Xavier Niel sont deux personnes différentes. Au début, quand j'ai répondu à mes premières interviews, mon éditeur m'avait plus ou moins dit de pas le dire, que c'était inspiré de Xavier Niel, et de démentir. Et puis je démentais, puis j'avais l'impression de mentir. Et en fait, avec le temps, j'ai plus du tout l'impression de mentir, parce que c'est clairement pas lui.
Enfin, Oui, parce que en fait, nous-mêmes, on oublie très vite. Enfin, le risque, ce serait de vouloir toujours rapprocher du réel, oui. Et on se rend compte que c'est pas le cas.
Bon, moi, j'ai un élément de divergence, que le passage à la deuxième et la troisième partie, aux deux tiers du bouquin, où là, vraiment, c'est clairement...
Vous inventez carrément quelque chose qui pourrait même inquiéter Niel s'il lisait le livre en disant...
Non, voilà. Donc, il y a une
je vais finir avec
forte,
le prion.
Mais au-delà, on n'est pas face au même type de personnage. Le vrai Xavier Niel est quelqu'un de truculent et un peu... étonnant, et alors que Pascal Hertanger est plus en retrait. Ouais.
Et puis en plus, vous l'imaginez enfant.
Oui,
donc
oui.
Faites naître ce. Alors, on parlait de l'ambition du roman. Vous avez dit, c'est pas une surprise non plus, je sais pas, vous avez lu Balzac avant de vous lancer là-dedans. Donc, tout le monde vous ressort le roman balzacien.
Je l'ai cherché un peu.
Mais, et pas stendhalien, malheureusement. Mais est-ce qu'il y a cette ambition-là de vous dire, un roman, aujourd'hui, peut avoir cette ambition de raconter non seulement un personnage, mais autour de lui tout ce qui l'entoure, tout ce qu'il a porté?
Oui. Enfin, Balzac, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, il y a un texte très beau de Gracq que j'aime beaucoup sur Balzac, où en gros il dit qu'il a réussi à faire se collisionner 3 périodes, qui est la période Ancien Régime, la période révolutionnaire, la période napoléonienne et la Restauration, 4 périodes. Du coup, il pouvait se permettre, parce qu'il était dans un temps d'accélération très rapide où il s'est passé beaucoup de choses, d'être l'archéologue de son propre temps. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, cette archéologie, elle existe, elle est dans les objets techniques. Le Minitel, finalement, c'est pas très vieux, ça a 20 ans ou 30 ans, ça nous semble déjà d'un autre âge, même un iPhone 3G par rapport à un iPhone 4 ou un iPhone 5, ça nous semble un objet d'un autre âge. Donc, je pouvais... Il était, à mon sens, à nouveau possible de parler au passé. D'ailleurs, j'ai fait le choix du passé simple.
Oui, du passé simple, c'est quand même...
Ouais. Mais il était possible de parler au passé de cette époque et l'époque présente, à cause, entre autres, de cette accélération du temps. Mm-hmm. Et ensuite, la grande idée de Balzac, même si finalement il le met moins en œuvre qu'il pourrait, mais bon, ça reste une idée très forte, c'est l'idée du complot et l'idée d'une histoire secrète. Et aussi l'idée du Swedenborgisme. Bon. C'est une chose un peu bizarre. Comme le faisait remarquer Baudelaire, Balzac, c'est pas un écrivain réaliste, c'est un écrivain fantastique. Mais c'est parce qu'il y a une très grosse dose de réalisme qu'on tolère, je pense, ces éléments fantastiques. Et moi, la théorie de l'information, j'ai fait un truc un peu comme ce que disait Balzac avec Swedenborg, quoi. Essayer de faire l'histoire spirituelle secrète de notre temps, et j'ai essayé de trouver une théorie secrète avec des acteurs secrets qui étaient les informaticiens qui œuvraient dans l'ombre, comme les 13 chez Balzac. Enfin voilà, j'aimais bien l'idée de pouvoir raconter les dessous de l'histoire contemporaine. Et la théorie de l'information, c'est ça. Autant la physique quantique, la relativité d'Einstein, c'est connu. La théorie de l'information, à part les gens qui font des études d'infocom ou les informaticiens, c'est extrêmement peu connu. Et c'est la théorie qui fonde 50 ans d'innovation technique. Donc ça m'intéressait, j'avais une bonne clé pour raconter ce qui se passait sous la période. Ouais.
Parce que c'est quand même un livre qui annonce ses ambitions, mais qui parle aussi d'une civilisation, carrément. C'est-à-dire, comme vous disiez, Balzac parle d'une civilisation, c'est aussi le propos du livre, c'est une sorte d'épopée des origines. Vous essayez, à travers la naissance d'un individu, de raconter aussi la naissance d'une civilisation, il me semble.
Oui.
Moi, ça me faisait penser à une sorte de Gilgamesh, un peu... voilà. C'est-à-dire qu'on voit la naissance d'un être et on va le voir évoluer et créer une société. Est-ce que c'était un peu ce que vous vouliez montrer? Non, on change d'air.
Oui, enfin, l'idée de départ est... je me permets vraiment plus de lire, parce que c'est pas une idée qui m'est apparue après ou pendant l'écriture, c'était vraiment ce que j'avais l'intention de faire. Donc après, bon, c'est à vous de me dire si j'ai réussi ou pas, mais je voulais raconter la vie d'un premier croyant d'une religion nouvelle, qui serait la religion de l'âge informatique. Donc j'ai mis énormément d'éléments comme ça, et je voulais qu'au moins une chose soit crédible dans mon livre, c'est qu'on comprenne que Pascal Ertanger allait croire, comme je dis à la fin du livre, à la théorie de l'information comme à une théorie religieuse, ce qui semble dingue, parce que la théorie de l'information n'est pas une théorie religieuse. Et donc voilà, je voulais qu'il y ait plein d'éléments, plein de pistes dans ce sens-là, où on avance progressivement, mais que l'unique sujet de la théorie de l'information, c'était l'âme de Pascal Ertanger, non pas que son âme m'intéressait particulièrement, mais parce que je voulais que ce soit crédible, que c'est la transmutation religieuse affecte la psychologie de ce personnage. Cette idée, finalement, une idée... qu'on trouve quand on lit un peu, bon, je ne lis pas ça, mais bon, je m'en fais une idée, quand on lit la patristique ou quand on lit des histoires de l'origine du christianisme, il suffit finalement d'une seule âme qui croit vraiment à quelque chose pour que la chose soit validée. De la même façon, il fallait que j'arrive à rendre l'âme de Pascal Ertanger crédible en position religieuse.
Oui, parce que c'est une sorte de premier chrétien, mais d'un Dieu qu'on ne connaît pas vraiment, en fait. D'un Dieu qui est vraiment invisible.
Voilà, bah, là, on, voilà, je reste volontairement flou par rapport à ça. On ne sait pas trop, la fin du roman, on ne sait pas trop. A priori, Pascal Ertanger va pirater le temps, à peu près ce qu'on comprend. On ne sait pas trop, on sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas trop ce que c'est que ce Dieu. Je parle des théories en vogue, qui sont les théories de la singularité technologique, de l'émergence soudaine d'une intelligence artificielle qui va prendre le contrôle de l'histoire, d'une fusion entre les machines et les corps. Je reste volontiers en retrait.
En retrait, oui. Enfin, vous ne plongez pas dedans. Mais vous avez quand même cette idée qu'on est... Les machines peuvent créer une religion.
Voilà.
Même Google, que Google était une sorte d'instrument terrible qui pourrait être Dieu. Enfin, je veux dire...
L'une des inspirations du roman, c'était cette espèce de mystère biographique dans la vie de Pascal. Comment est-ce qu'on passe d'un type qui invente des machines à calculer à un mystique, un janséniste pur et dur qui s'enferme à Port-Royal, ouais. Et je voulais montrer, bah, finalement, pourquoi pas, quoi. Le pari de Pascal s'appelle, dans un fragment des pensées, le discours de la machine. Et je voulais montrer que de l'admiration pour les machines, on pouvait passer au culte religieux. Ouais, ça semble assez fou, mais ça me semble un assez grand enjeu spirituel de notre temps, ouais.
Mais très tôt, en plus, il y a eu cette intuition-là que l'ordinateur pouvait se rapprocher d'une certaine religion. Vous reproduisez à un moment une lettre de Jacques Perret,
oui,
qui est un professeur de philologie latine, qui propose, alors dès 1955, le terme ordinateur. C'est lui qui l'a créé. Et il avait peur dès le début que ça ressemble trop à ordination.
Oui, qui était un terme de religieux, Dieu, le grand ordinateur de l'univers. Oui. Et la réponse de Jacques Perret au PDG de IBM France est très drôle. Il dit, mais en gros, l'informatique et la théologie sont tellement éloignées que jamais, 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 il y aura de fusion possible et de confusion possible. Or, ce que l'histoire a montré et montre sous nos yeux, c'est qu'il y a une confusion très forte qui prend énormément de forme entre le domaine religieux et le domaine informatique. L'un des exemples que je donne, j'ai essayé de répondre à ce mystère, je ne sais pas si c'est un mystère pour quelqu'un d'autre, mais je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que les grands amateurs de science-fiction et pourquoi, grosso modo, les proto-geeks et les informaticiens jouaient à des jeux de rôle et s'intéressaient autant à l'heroic fantasy. Donc, il y a plein de raisons. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons un peu contingentes, mais il y a quand même quelque chose de peuples des catacombes, de garçons qui vivent rejetés hors du monde et qui sont privés du rapport de séduction et qui sont privés de la lumière et qui, même bon, là j'exagère beaucoup, mais qui quelque part fourbissent une vengeance et vont ressortir triomphants un jour.
Et on a l'impression, à votre personnage, que vous imprimez ça dès l'enfance, c'est-à-dire il y a cette scène avec ce Velux, ça, enfin cette
oui,
que les choses qui vont lui arriver à lui vont passer par le prisme d'un intermédiaire qui est une sorte de comme un écran, quoi, comme si le réel, il n'avait jamais de prise sur le réel. Est-ce que c'est un peu ça, cet homme qui n'est jamais vraiment en contact avec le réel?
Oui, il a quelque chose. Je lui fais vivre très jeune
une sorte d'expérience.
Une sorte d'expérience, un peu mystique,
absolu,
un peu bizarre.
Oui. On n'est pas loin du mysticisme.
Où en gros, il est empoisonné, il est très asthmatique, il est empoisonné par du pollen qui arrive par le Velux de sa chambre et il voit les choses au ralenti comme ça. Enfin, il se passe quelque chose de bizarre. Il en conçoit une mélancolie très forte dont il ne se départira jamais. Et oui, effectivement, un retrait du monde. En gros, je sais pas, il a 7, 8 ans, peut-être 10 ans, et sa conclusion, c'est bon, pourquoi pas mourir, finalement. Un truc hyper quiétiste, très bizarre, ouais. dans la bouche d'un enfant. Ouais. Et à différents moments de sa biographie, j'essaie de le représenter dans des toutes petites phases mystiques. Pendant la guerre du Golfe, par exemple, il passe... petite parenthèse, la guerre du Golfe, c'est le moment où on a parlé du triomphe de l'âge de l'information. Mais bon, l'âge de l'information, c'est pas que CNN, mais... il s'est passé quelque chose, donc voilà. Et j'ai voulu montrer que pendant 6 mois de sa vie, il a été hypnotisé devant les images, le flux d'informations continue. Et plus tard, sur un porte-conteneur qui ramenait en Europe les modems qu'il avait fait fabriquer en Chine, il aura, pareil, une expérience un peu mystique de réflexion sur le monde et la nature, et la nature ultime de la réalité. Et progressivement, vers la fin du roman, cette espèce de bruit de fond un peu épisodique va prendre le dessus, ouais.
Justement, ce mysticisme, on le voit dès le début avec... vous commencez fort votre roman en déclarant que les milliardaires furent les prolétaires de la post-humanité, comme une envie d'aller au-dessus du vivant et de s'approprier leur... la mort, ce qui peut arriver, quoi.
Oui, je me suis amusé à faire un petit catalogue dans les 3-4 premières pages des projets un peu post-humains des différents milliardaires...
Lagardère,
l'histoire m'amuse parce que il avait des projets secrets des projets très officiels avec Matra pour fabriquer un cœur artificiel avec a priori l'idée de se le faire implanter, et en attendant il s'est fait implanter une hanche en titane et il est mort d'une maladie nosocomiale. Bon, il y a une théorie qu'il aurait assassiné par les Russes, mais une théorie absolument invérifiable. Donc voilà, il y a cette espèce de gag, et puis finalement, ça ne marche pas. Steve Jobs, il fabrique des machines géniales, et puis il est planté au dernier moment par son propre pancréas. Donc voilà, donc il y a un côté post-humain, oui, mais prolétaire, parce qu'ils sont absolument incapables de s'inventer la vie éternelle. Donc moi, j'aurais pu faire un truc un peu bizarre comme ça, où mon personnage rentrait dans une quête de vie éternelle, et j'ai fait un truc finalement beaucoup plus radical et en même temps beaucoup plus mesuré, j'ai l'impression.
Moins ironique aussi peut-être, parce que vous êtes très ironique pendant le livre, vous êtes très doué pour les descriptions de personnages en 3-4 lignes, tout ça, vous allez trouver le bon adjectif, notamment de tous les seconds rôles, il y en a plein, et notamment des gens qui existent, oui. Vous êtes parfait pour les décrire, mais moins sur lui, vous ironisez beaucoup moins sur lui, vous êtes beaucoup plus, on dirait pas empathique, mais lui, il est pas sujet à votre ironie. Est-ce que vous l'avez senti, ça, ou pas?
Oui, non, clairement,
oui. Il pourrait prêter à la réalité.
Clairement, je l'aime bien. Oui, il y a des moments un peu où il devient nouveau riche, où il fait une fresque grotesque sur son mur. Bon, c'est des tout petits moments d'ironie, mais globalement, je l'aimais bien, oui.
Oui, enfin, c'est ça, vous le trouvez pas risible.
Et jusqu'à la fin, j'étais ému avec lui. Enfin, oui, non, je...
C'est ça, vous êtes un peu capturé par votre personnage.
Oui, je me suis rendu compte que je l'aimais bien. Donc...
Est-ce que c'est un défaut, une qualité? On ne sait pas. Mais voilà, alors vous... on entend ce mot qui est absolument exaspérant, enfin pour nous, qui est ce mot que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, qui est le mot geek en permanence, qui est, on a le sentiment que vous écrivez pour les geeks, alors qu'on sait qu'ils ne lisent pas.
Oui.
Comment pouvez-vous vous défendre de ça, de se dire que finalement votre livre donne l'impression d'avoir été écrit pour des gens, alors que ceux-là ne lisent pas, ceux qui sont devant leur écran tout le temps? Pensez à quel lecteur?
Vaste débat, très très vaste débat. En gros, la théorie de l'information est un roman geek incontestablement. Ensuite, je pense que le geek est l'ennemi de la littérature. Donc voilà, c'est les deux termes du débat, quoi. Il se passe quelque chose d'un peu...
Parce que vous êtes dans un plaisir narratif, quand vous avez découvert au fur et à mesure.
Oui, enfin... Bon,
et en même temps, comme si vous contrediez votre plaisir narratif en mettant des théories, en analysant, en mettant des anecdotes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu chez vous entre le plaisir de raconter et en même temps le plaisir de dire des choses, des informations et des...
Oui, objectivement, la théorie de l'information n'aurait pas vu le jour sous cette forme si j'avais pas une connexion au débit à Internet. Hein. C'est absolument incontestable. Ça a été un élément absolument important... de ma démarche de romancier est centrale. Donc après, c'est pas que ça, c'est pas du tout un catalogue de pages Wikipédia, c'est pas du tout le sens, mais il y a une extraction permanente d'informations. Donc il y a un jeu par rapport à ça. Ensuite, le fait que la littérature, parce que... disons que la culture geek, au sens strict, c'est la contestation de l'humanisme de la Renaissance. C'est l'humanisme de la Renaissance a... Pour simplifier, milite pour l'idée qu'il faut construire un homme le mieux possible à partir des humanités, à partir d'une foule d'apprentissages pour lui rendre capable d'être le meilleur possible dans un monde qui est le monde finalement de la réforme et de la contre-réforme, qui est un monde qui va être de plus en plus sans repère. Ça, c'est la grande idée de l'humanisme. La grande idée de la culture geek, c'est... Il ne sert absolument à rien d'internaliser les choses, puisqu'on peut trouver à l'extérieur de nous absolument tout. Il ne sert absolument à rien d'avoir des connaissances préalables, parce qu'il suffit d'avoir une connexion Internet pour trouver les connaissances.
La mémoire est inutile. On a tout...
La mémoire est inutile. Bon, finalement, je fais une contradiction avec Sébastien à la Renaissance, mais c'est un peu le même mouvement que la constitution de bibliothèque extérieure à soi. C'est un mouvement où on déporte encore des facultés de calcul sur des objets extérieurs. Donc... du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais du coup, j'ai l'impression que d'un point de vue littéraire, ça donne des bons enjeux, parce que j'ai l'impression qu'il y a des bons ennemis et qu'on fait de la bonne littérature aussi quand on a des bons ennemis. Et si je suis face à des gens qui lisent plus ou qui lisent peu, je vais essayer de les intéresser autrement. C'est pour ça qu'il y a un côté un peu... j'ai mis de la confiture geek sur la théorie de l'information, alors que mon vrai objet... mon vrai sujet, finalement, à la théorie de l'information, c'est la littérature. C'est un roman de passionné de la littérature. Il y a pas de...
C'est ça. C'est quand même l'enjeu réel. Et alors, on se rend compte que c'est vraiment à la fin que vous le dites. À la fin où la littérature donne le sentiment que c'est vraiment le véritable enjeu. Mais vous le dites clairement. Est-ce que vous, c'est exprès d'attendre la fin, du style « j'ai perdu en route peut-être ceux qui n'y croyaient pas, et à la fin, j'ai gardé peut-être les plus littéraires ?» Parce que moi, j'ai vraiment le sentiment, c'est carrément dit en toutes lettres. Et puis le livre est parcouru de références à la littérature, Umberto Eco, enfin des gens comme ça, qui sont présentés comme des écrivains et comme l'enjeu principal c'est la littérature.
Disons que ça semble compliqué, un peu absurde d'expliquer ça comme ça, mais plus on approche des enjeux post-humains, plus les enjeux littéraires sont importants. Je sais pas comment résumer cette idée, mais
parce que. Quand la grande idée de ce fou, de cet homme qui devient un peu fou, c'est somme toute de prendre toutes les vies, par exemple, qu'il y a sur Facebook.
Oui, voilà, de faire un résumé.
De faire un résumé des vies en disant les gens racontent leur vie. Le rêve de tous les gens, finalement, c'est que leur vie soit un roman.
Et de fabriquer des petits algorithmes pour transformer des récits Facebook en romans.
Roman. C'est quand même le mot roman qui intervient. Il transforme, somme toute, le monde entier en une sorte d'énorme machine littéraire, somme toute.
En fait, ouais, il y avait une partie polémique qui me semblait importante. Deleuze a déclaré un jour, et je ne sais pas pourquoi, c'était largement repris, tout le monde trouve cette phrase géniale, a déclaré dans une conférence qu'il avait donnée à la FEMIS, c'est dans une vidéo, on peut la trouver sur Internet, que la littérature, l'art n'avait rien à voir avec l'information.
C'est ce que vous dites.
Dans ce cas-là, certes, mais bon, à part d'être complètement mystique, qu'est-ce que ça veut dire, ouais. Et mon idée, c'est de dire qu'est-ce que c'est qu'un roman. Un roman, c'est de la théorie de l'information. Qu'est-ce que c'est que de la poésie? C'est de la théorie de l'information. C'est assez frappant dans la poésie. Qu'est-ce que c'est que la théorie de l'information? En gros, c'est l'idée qu'on peut résumer des choses si on a une succession de 5 millions de caractères. Il y a une telle quantité d'informations dans ces 5 millions de caractères et on va essayer de fabriquer une collection de caractères plus restreinte qui va refléter la totalité des informations qu'il y a dans la grande truc. L'histoire des sondages, de la statistique, procède de la théorie de l'information. Un poème, qu'est-ce que c'est? C'est de réussir à mettre dans un alexandrin le sentiment qui nous a étreint le cœur, souvenir de la bien-aimée alors que le vent du soir se levait sur un lac ridulé... ridulé, où il y avait quelques signes, quoi. Réussir en seulement 12 vers, 12 pieds, à encoder une réalité immense. Il me semble que la poésie marche d'autant mieux qu'elle arrive à cette opération, ouais. Qui n'est pas du tout une opération mystique. Il faut être très doué pour le faire, mais bon, voilà, c'est purement de la théorie de l'information. Le roman, de la même façon, il faut essayer de faire passer un message en levant tout équivoque possible et en même temps en jouant avec l'équivoque, en disant plusieurs choses en même temps. Et d'essayer, peut-être l'opération inverse de la poésie, c'est d'essayer que ces 500 pages, elles en valent 5000 parce qu'il y aurait un art spécial de l'évocation, etc. Donc il y avait cet enjeu fort, mais que j'avais un peu commencé dans mon premier bouquin sur Houellebecq, l'essai sur Houellebecq, c'est de... Le pire service qu'on peut rendre à la littérature, c'est de la sacraliser. Ouais. La littérature ne doit pas être une activité, grosso modo, de culturelle, de classe dominante. La littérature doit être dans le jeu général du monde. Et c'est ce que je disais par rapport, même si j'étais pas très clair tout à l'heure, j'espère de l'être plus maintenant, ce que je disais par rapport au geek, c'est que la littérature... Elle a vocation à entrer sur le marché de l'attention. Aujourd'hui, Internet, le grand marché sur Internet, c'est la guerre pour l'attention. Quoi. Essayer de voler du temps de cerveau disponible pour vendre des publicités et puis que les gens passent plus de temps sur mon site qu'ailleurs à regarder telle chose. Certes, la littérature, elle a un privilège culturel parce qu'elle est très valorisée. Lire un livre, c'est autre chose, etc. Mais la littérature n'a pas intérêt à se défendre de cette façon. La littérature... comment dire, si on prend le livre électronique, il y a le modèle du Kindle où on peut faire que lire des livres, et il y a le modèle de l'iPad où on lit des livres, on peut aller sur Internet. Bah moi, mon défi, c'est pas que la littérature triomphe que sur le Kindle, c'est qu'elle triomphe sur l'iPad, et c'est qu'il y a une énorme concurrence. On est des jeux vidéo, on est tous les sites Internet du monde, mais qu'à un moment, on les ferme et qu'on lise mon roman. Je voulais, ça me semblait important, oui. Ça me semble, en tout cas, un enjeu important de la littérature aujourd'hui.
Et en même temps, on sent un souci chez chacun de ces personnages de vraiment maîtriser les choses, et pourtant on a l'impression que quelque chose leur échappe. Et je voudrais juste revenir à une phrase que vous faites dire à Pascal Ertanger. À un moment, il dit que voilà, je ne suis vraiment pour rien si ça marche, alors ne m'accusez pas si ça plante, devant les problèmes techniques que se posaient au début par rapport à Internet. Et finalement, on peut se demander qui manipule qui. Est-ce que c'est l'homme qui maîtrisait les choses, ou si au bout d'un moment, c'est pas l'ordinateur qui prend le pas?
Il y a une phrase que j'ai lue récemment que je trouve très drôle de j'ai oublié son prénom, un type qui s'appelle Dyson, qui est le fils du grand physicien Freeman Dyson, et qui a écrit un bouquin à la fin des années 90 sur l'intelligence artificielle, un bouquin qui est assez fabuleux, qui n'est pas traduit en France. Et il dit, imaginons, il fait l'hypothèse suivante, imaginons, on est en 2100, et en 2100, on a fabriqué un superordinateur, et ce superordinateur accède à la conscience. Et du coup, on va interroger ce superordinateur, et on va lui demander depuis quand la vie existe-t-elle sur le silicium. Et le superordinateur ne va pas répondre il y a une heure. Le superordinateur va répondre, en gros, depuis l'invention du silex poli au néolithique, quoi. Que cette histoire des outils, que cette histoire de la technique, elle est de son point de vue beaucoup plus longue. Et même ces outils n'étaient pas conscients, de la même façon que nous, on se sent héritier de Lucie, ben voilà, il se passe quelque chose comme ça. Donc il n'est pas impossible, mais bon là c'est la partie un peu farfelue, un peu échevelée de mon bouquin, mais il n'est pas impossible que l'histoire des machines ait déjà commencé, ouais, et soit déjà autonome. On dit à peu près la même chose pour les codes. Qu'est-ce que c'est qu'un programme informatique? C'est un très très gros code, finalement, qui utilise nos petits bras, nos petits doigts et nos petits cerveaux pour s'auto-répliquer lui-même. Ouais. Ça semble farfelu, mais ça me semble pas intenable comme théorie, ouais. Donc il est possible, non pas que les machines aient déjà le pouvoir et soient en position de nous manipuler, etc. Mais par contre, il est possible que les choses soient beaucoup plus avancées qu'on ne le croit. Ouais.
Oui, donc en plus de Houellebecq et de Balzac, vous êtes certainement aussi un gros lecteur de SF, j'ai l'impression. Enfin, à un moment, vous citez Greg Egan, le neuromancien.
Bah, pas beaucoup, j'ai beaucoup lu de romans de cyberpunk qui me semblent la meilleure chose qui soit arrivée à la SF, même si c'est vieux, ça date des années 80. Et puis, si on regarde le neuromancien de William Gibson, qui est un bouquin qui est paru au début des années 80, je crois 84, il a inventé 90% des mythes qu'on retrouve dans tout Matrix procède de neuromancien. Il a inventé des mythes absolument géniaux. Ouais. Le mythe du cyberspace, le mythe du pirate génial, enfin, il a à peu près tout inventé, donc c'est une bonne veine littéraire. Ouais.
D'ailleurs, tous ces termes-là, enfin, on voit que vous émaillez votre récit avec quelques pages hautement théoriques, on va dire, sur la théorie de l'information. Alors vous commencez avec en parlant du steampunk, ensuite du cyberpunk, et enfin du biopunk. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en gros ce que désignent vraiment ces termes?
Originairement, donc, cyberpunk, c'est un mouvement de SF qui mettait en place, dans un monde contrôlé par des grandes multinationales appelées Zaibatsu, des pirates qui utilisaient des machines pour se déplacer à l'intérieur même de la matrice, qui était l'Internet avant qu'Internet existe, etc. Et une veine, voilà, assez importante, qui a donné naissance à une sous-branche qu'on a appelée le steampunk. Le steampunk, c'est à peu près la même chose, sauf que ça se passe au 19e siècle, et on part du postulat que l'électricité n'a pas été inventée, mais que les ordinateurs et les avions existent quand même, mais uniquement à base de machines à vapeur, d'où le terme steampunk. Et puis une sous-branche qui s'est développée récemment, c'est le biopunk, pareil, sauf que c'est à base de manipulation génétique, etc. Donc voilà, bon, et ça dessine un paradigme important où le code est la réalité centrale, etc. Et ça me permettait surtout de raconter en les mettant dans l'ordre steampunk, cyberpunk, biopunk, ça me permettait de raconter une histoire absolument passionnante pour l'histoire des sciences, mais même au-delà, qui est l'histoire de la théorie de l'information. La théorie de l'information procède de façon indirecte, mais de façon très certaine, de l'histoire de la thermodynamique, ouais. Pour le faire très simplement, la thermodynamique se développe au 19e siècle parce qu'on se rend compte que les machines parfaites n'existent pas et que la machine à vapeur aura toujours une déperdition d'énergie, et cette déperdition d'énergie, on l'appelle entropie. Et ça donne des choses absolument hallucinantes où, à la fin du 19e siècle, on découvre que le soleil va mourir, on découvre que l'univers lui-même va mourir, etc. On atteint un niveau de pessimisme scientifique à peu près total. Je pense même qu'on comprend pas bien ce qu'on appelle la grande crise européenne du début du XXe siècle si on comprend pas à quel point la science porteuse de progrès a atteint un horizon de pessimisme total. Et il se trouve que de la thermodynamique et de l'entropie, pour des raisons vraiment compliquées qui seraient trop longues à expliquer maintenant, l'histoire de l'information vient en fait, l'information est je schématise, mais l'information est inventée comme un remède à l'entropie. L'entropie, c'est que tout se dérègle et le temps est irréversible. Bah, par l'information, on va pouvoir, par des effets de feedback, etc., c'est toute l'histoire de la cybernétique, pouvoir réparer le temps. Donc alors qu'on pensait que l'univers allait aller vers le déclin et que la mort était en fait irrattrapable et que toute machine était vouée à la perte, on découvre d'abord théoriquement des machines absolument pures qui vont avoir en plus la possibilité de réparer le temps, et ces machines sont les ordinateurs. Donc c'est pour ça, quand je dis qu'il y a quelque chose de religieux, il faut voir d'où vient l'informatique. L'informatique vient, avant même des ordinateurs, vient de ces expériences de pensée menées dans les années 30, etc., où il y a là vraiment quelque chose. Et puis bon, après, voilà, je développe des choses un peu plus échevelées dans la troisième partie biopunk, de vie artificielle, d'automates cellulaires et de scientifiques assez sérieux en plus qui soutiennent l'idée que l'ordinateur n'est qu'un gros programme qui effectue des calculs.
Mais curieusement, votre héros, Hertinger, lui n'est pas un scientifique, c'est pas un créateur, c'est plutôt quelqu'un qui utilise ce qui existe.
Oui. Alors
pourquoi avoir choisi justement quelqu'un qui est là et qui sent ce qui se passe, qui va anticiper, mais qui va être un commerçant aussi. C'est quand même un type qui fait de l'argent.
Je pense qu'il y a un côté scientifique raté chez lui. Enfin, il se passe quelque chose de bizarre. Il abandonne trop vite ses études et puis il se lance à corps perdu dans l'argent, effectivement. Il y a quelque chose de bizarre. Ça m'intéressait parce que ça me permettait en position de lui donner les moyens. J'aime énormément, surtout si je suis filmé, je ne veux pas du tout critiquer les particules élémentaires de Houellebecq, mais la fin des particules élémentaires avec intervention de l'ONU pour réaliser le plan secret de Dzerzhinsky. Bon. Cette intervention de l'ONU me laisse un peu perplexe. Bon, ben moi, l'intervention de l'ONU, elle est faite par peut-être ça peut aussi laisser quelqu'un d'autre perplexe, mais elle est faite plutôt par un milliardaire tout puissant. Je voulais en fait arriver à un personnage qui avait la possibilité de devenir l'ingénieur de ces théories un peu folles.
Oui, donc c'est l'argent qui, quand même, malgré tout, est à la base de tout. Voilà.
Oui.
Sauf que l'argent, chez lui, il arrive par les moyens les moins moraux, on va dire. Alors c'est toute l'histoire du Minitel.
Oui, oui, oui.
Enfin, vous racontez le Minitel par un prisme qu'on n'imaginerait pas, qui est... moi, ma vieille mère, le 30 juin était un jour de deuil pour elle. Elle s'est rendue compte le 1er juillet que ça ne marchait plus, son Minitel. Et elle s'en servait depuis 20 ans. Elle avait mis un temps fou à sa famille, mais pour elle, c'était quelque chose d'électif. Mais elle n'avait jamais entendu parler du 3615 Turlu ou Géraldine. Or, l'âge d'or du Minitel, c'est quand même ça.
Oui, ça a été...
Hertinger, votre personnage...
Il y a eu pendant
il existe par rapport à ça.
Au milieu des années 80, c'est un fait avéré, il y a une trentaine, voire plus, peut-être une centaine de très jeunes hommes qui sont devenus millionnaires et de jeunes femmes qui sont devenues millionnaires très très vite grâce au Minitel. C'est à peu près comme si on inventait Angry Bird aujourd'hui, quoi, pour un échelle de... Et encore, ça marche mieux parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. C'était, le rose était la killer application du Minitel, quoi. Ça rapportait un fric fou de façon très très vite. Ouais. Et ça demandait très peu d'efforts.
Pour vous, c'est juste un moyen, en fait. C'est-à-dire que...
Oui, c'est un moyen, puis ça permettait de croiser avec un thème de... une sorte de terreur profonde du personnage pour la sexualité, ouais.
Oui, il y a quand même ça chez cet être.
Il y a cette idée que... Enfin, en gros, mais pour des raisons un peu complètement accidentelles, mais il se retrouve jeune adolescent timide et vierge à superviser des échanges torrides entre adultes. Et il se retrouve en position bizarre d'observer le sexe de l'intérieur avec une position surplombante d'être l'administrateur du serveur. C'est ce que je trouve intéressant comme effet.
Comme si finalement l'innocence lui était refusée et qu'il passait son temps à essayer de la regagner, cette innocence, d'une façon ou d'une autre.
Où il était, oui, enfin, il n'est pas clairement dans le mal.
Il n'est pas moral. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est un livre aussi sur. Enfin, on n'a pas ce sentiment. Est-ce qu'il y a un enjeu moral dans votre livre ou pas? On n'arrive pas à déterminer, il y a le bien et le mal, c'est pas vraiment comme
non,
ça.
Non, il n'y a pas vraiment d'enjeu moral. J'ai pas de.
Ce qu'il pouvait y avoir dans Balzac, par exemple, où il y avait quand même, bon, Vautrin, enfin, tout, l'agent du mal qui venait pour. Avec des dessins plutôt noirs, là, on a le sentiment que c'est pas le cas.
Oui et non, parce qu'en gros, c'est aussi l'histoire d'un adolescent, d'un adolescent qui n'a rien, qui va devenir une sorte de super-héros, parce qu'il va découvrir, avec ces sortes de prothèses que sont le Minitel, le ZX-80 et quelques autres machines, il va découvrir des pouvoirs quasi surhumains. pouvoir de devenir très riche, pouvoir de faire de l'argent. Et puis il va se retourner progressivement dans la troisième partie, il va devenir un peu un super vilain, quoi. Donc oui, il y a un basculement comme ça, quoi.
Vous avez le sentiment qu'il devient un super vilain à la fin ?
Bah quand même, oui. Enfin, oui. La toute fin.
il crée quelque chose, oui, mais enfin, il le fait pas au nom du mal.
Effectivement, il le fait au nom du bien et je ne dévoile rien en disant que ses derniers mots, c'est j'ai réussi. Et oui, effectivement, à son sens, il a réussi ce qu'il a entrepris, quoi.
Voilà, donc c'est pas.
Ouais, non, effectivement.
C'est pas le diable, quand même. Voilà.
Mais un super vilain dans un bon film de super-héros a souvent raison d'agir de la façon dont il le fait, quoi.
Une justification.
Oui, voilà.
C'est quelque chose qui est.
Même pas. Enfin, ça peut être vraiment. Non, je veux détruire la Terre parce que cette planète est polluée et ça peut être des choses comme ça. Ouais.
Alors, est-ce que vous pensez qu'un Américain aurait pu écrire votre livre ?
Alors ça,
est-ce que c'est pas quelque chose d'éminemment français, ce livre ?
C'est un enjeu vraiment important, ça, il me semble.
J'ai l'impression que ça traverse tout le livre, quand même. Alors, c'est pas ethnocentré, mais qui est quand même... On va parler d'une particularité qui est la France des années 70, années 60, et quelque chose s'est développé en France qui est peut-être mené vers une impasse, mais qui est... c'est une histoire française.
En fait, qu'est-ce que c'est ? Je me suis amusé, j'ai un faux article scientifique à la fin, où je décris finalement le... c'est toutes ces histoires de modernité informatique comme une uchronie française. Ouais. Et le Minitel, finalement, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un Internet uchronique, ouais. C'est Internet, mais plutôt que se développer très vite en Californie à partir de 95, se développe très vite à Vélizy à partir de 85, quoi. Ça m'intéressait, ça, de représenter finalement l'extrême modernité, mais en lui donnant un cadre un peu bizarre, qui était la France, ouais. Il se trouve que c'est un pays, premièrement, que je connais bien, mais en plus, c'est un pays qui est intéressant, parce que c'est, par son histoire, un rapport un peu compliqué, un peu difficile et un peu intéressant à la modernité. Ça me permettait d'apporter un relief. Donc, c'est un roman qui est clairement français, et en même temps, je rapatrie beaucoup de thèmes qui pourraient être des thèmes de romanciers américains.
Ouais. Des thèmes anglo-saxons. Mais c'est quand même Minitel versus Internet. Enfin, il y a aussi ce côté-là. Est-ce que c'est l'histoire d'un échec aussi, ce livre ?
Ouais,
vous avez le sentiment que c'est un échec ou pas ? Est-ce que le Minitel, par exemple, la chute de l'extinction du Minitel, est-ce un échec ou au contraire, c'est quelque chose ? C'est une voie abandonnée ? Enfin, qu'est-ce que...
C'est compliqué, c'est l'histoire en fait d'une erreur. D'une mauvaise. C'est ni un succès ni un échec, c'est une mauvaise branche temporelle en fait. Parce que le Minitel est un succès, je crois, il y a eu des investissements très très lourds, vraiment très très lourds, hein, qui se comptent en plusieurs dizaines de milliards de francs. Et il s'avère que le Minitel, on découvre qu'il est rentable. Je crois à partir de 96, le Minitel est rentable. Et Internet deviendra rentable beaucoup plus tard. En 96, le chiffre d'affaires mondial du Minitel, français du Minitel, est supérieur au chiffre d'affaires mondial d'Internet. Donc à cet égard-là, c'est pas un échec. Ensuite, c'est un échec parce que c'était pas les bons protocoles de communication. C'était de la communication par circuit, pas par commutation par package, quoi, pour faire simple. Du coup, c'est ce que je dis, c'est une uchronie, quoi. C'est une réalité parallèle, quoi. Il y a eu le Minitel et puis c'est pas la branche du temps qu'a gagné, quoi. C'est un peu comme si ça aurait été l'histoire de la Betacam au moment où la VHS triomphait, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Ouais.
Et en parlant de temps, justement, est-ce que vous pensez que le Minitel, finalement, nous a permis, nous, en tant que Français, de gagner du temps, de nous familiariser à l'écran, au clavier, ou plutôt en perdre, étant donné que les politiques se sont vraiment attachés jusqu'au bout à cet outil, et finalement, par rapport à Internet, eh bien de se détacher de ce qui se passait dans le monde.
Bah, je cite Jospin à un moment, en 98, il réalise où là, le Minitel va peut-être nous faire perdre beaucoup de temps. Donc, voilà. Mais il s'est passé un truc amusant. Le Minitel est redevenu sur le devant de la scène quand on s'est rendu compte. Un type qui s'appelle Bayard, j'ai oublié son prénom, qui est un informaticien populaire qui fait beaucoup d'interventions publiques, il a pu réaliser l'idée de Minitel 2.0 et il s'est rendu compte que le modèle économique d'Apple était le modèle économique de France Télécom dans les années 80. Je ne vais pas me développer la comparaison maintenant, mais c'est frappant de voir à quel point le Minitel a peut-être même inspiré le modèle économique d'Apple. A priori, on sait, c'est avéré que le premier Apple, celui qui est un peu debout, qui a une grosse poignée, doit sa forme au Minitel, parce que Steve Jobs s'était procuré un Minitel. Donc voilà, donc il y a un côté un peu raté, effectivement, Mais finalement, un peu pionnier.
C'est un livre d'espoir. Finalement.
Et quand on voit. Qu'est-ce que c'est que le Minitel? En gros, c'est l'idée qu'on va pouvoir passer de zéro connaissance en informatique à l'informatique pour tout le monde. Ouais. On s'est beaucoup moqué du clavier numérique qui n'était pas AZERTY, ABCD des tout premiers Minitel. Mais l'idée, c'était qu'une personne de 75 ans, un Minitel débarquait, elle n'avait jamais tapé même à la machine, cette personne était capable de comprendre. Il y a eu des milliers d'études d'ergonomie qui ont été faites, et c'est l'histoire aussi, malgré tout, d'un grand succès industriel et d'une politique industrielle nationale réussie. Ouais.
Alors curieusement, je trouve que moi, il n'y a pas beaucoup de politique dans ce livre. Est-ce que c'est pas... On voit Sarkozy qui s'agit.
C'est pas de la... Non, mais pas la...
Thierry Breton, oui. Mais finalement, on voit beaucoup de technocrates.
Oui, voilà, mais c'est la politique à un niveau non politicien.
Mais c'est pas investi par la politique.
C'est la couche... La couche en dessous, qui est la couche des... Ouais, ça va du directeur de cabinet...
Les énarques, etc. Voilà. Ouais. Mais ça, cette dimension-là, vous a pas intéressé. Ce Ertanger aurait pu aussi avoir une ambition à... côtoyer les plus grands, et on se rend compte que finalement il est vaguement invité quand il est un peu...
Clairement, connu, oui, mais... ça ne l'intéresse pas, parce que les enjeux... Je me souviens avoir lu pendant la préparation de ce bouquin un livre de deux sociologues suédois qui s'appelait les Netocrates, et qui expliquait que les théories de l'information rebattaient les cartes, et que les nouveaux personnes les plus puissantes n'étaient plus les politiques, mais étaient les Netocrates. Ouais. Donc c'est un roman netocratique. Donc la politique, voilà, il a un peu besoin de Sarkozy pour avoir une licence de téléphonie mobile, mais c'est tout. Ouais.
Je fais une parenthèse par rapport à la documentation. Est-ce que vous êtes documenté pour l'écriture de ce livre avant ou alors pendant ?
Beaucoup avant d'écrire, et beaucoup pendant. Et puis au bout d'un moment, j'ai découvert que ça ne servait à rien de faire des copier-coller de très longs d'articles scientifiques que je mettais sur mon ordinateur pour les exploiter ensuite, mais que mon ordinateur pouvait être parfaitement vide. Il suffisait que j'ai une connexion Internet pour tout trouver. Quoi.
Oui.
Donc non, je me suis beaucoup documenté tout le temps, en fait. Ouais.
D'accord. Donc je pense, oui, vous êtes un gros utilisateur de Wikipédia, des encyclopédies en ligne.
Je suis un fanatique de Wikipédia, oui.
D'accord.
Ouais.
Et vous avez remarqué que votre page n'est pas complète.
Oui, oui, il y a eu des désaccords, ouais. Et puis elle a été validée. Mais non, je... En gros, je pense ne pas être le seul à faire ça, mais quand je suis insomniaque, je vais sur Wikipédia pendant des heures, et je fais le raccourci clavier CTRL-ALT-X ou je ne sais plus quoi, qui fait une page au hasard, et je peux défiler comme ça des pages et des pages et des pages et des pages.
C'est votre côté geek, alors.
Et bah là, ouais, incontestablement. Et puis, des fois, je tombe sur un sujet qui va m'obséder. Et puis, je sais pas, au bout de 100 nuits blanches à chercher sur un sujet, je découvre que c'est le bon sujet. La théorie de l'information, finalement, c'est un petit peu ça, quoi. L'informatique fondamentale me passionne de façon complètement extérieure depuis des années. Et puis, un jour, je découvre, bah tiens, pourquoi je n'écrirais pas un roman sur ces obsessions. Donc, ouais, non, j'ai un usage vraiment pulsionnel de Wikipédia. Ouais.
Et quel regard portez-vous sur tous les réseaux sociaux actuels, type Twitter, Facebook?
Bah, je suis fasciné par un point et je suis très content, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup... je déteste les vidéos sur Internet, je supporte pas en fait, je sais pas pourquoi, je les regarde jamais. Et j'étais très agréablement surpris de voir que le réseau qui triomphait, c'était Twitter, qui est un réseau de texte, strictement de texte. Il n'y a même pas d'image sur Twitter, c'est encore pire que Facebook. Et ça triomphe, donc contrairement à tout ce qui a pu être dit, Internet est un média d'écrit. Ouais. Ça, c'est à mon sens une bonne nouvelle.
Oui,
parce que c'est
des arguments pour ceux qui disent que les jeunes ne lisent plus, ouais, etc. Ouais. Mais les rappeurs achètent des dictionnaires de rimes. Enfin, il y a ce...
Complètement, oui. Ouais, ouais.
Et
oui, la masse de mots consommés n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. Et contrairement à ces espèces de cette espèce de tarte à la crème, j'avais même entendu Bruce Willis dire ça dans une interview, c'est la fin de la civilisation du papier, c'est le début de la civilisation de l'image, c'est la fin de la civilisation du papier sans doute, mais c'est le...
C'est pas
la fin du mot, ouais. Le mot reste on n'a pas encore trouvé de meilleur langage, on est encore à un siècle de cinéma qu'on n'a pas encore trouvé de meilleur langage que le langage écrit, ouais.
Alors à propos de mots, alors si on parlait de style un peu, vous dans le genre tarte à la crème, vous y avez eu droit, le fameux style blanc que depuis des années je me demande de quoi il s'agit.
C'est un vrai problème, le style blanc, ouais.
Est-ce que vous avez été confronté, on a le sentiment que votre livre réagit un peu contre ces romans qui donnent le sentiment que finalement, le sujet importe peu, que c'est l'écriture qui prévaut.
Complètement, oui.
Que vous refusez ça. Est-ce que c'est un parti pris? Est-ce qu'il y a des moments où vous n'étiez pas tenté de vous dire sur ce sujet-là, il y avait quand même quelque chose à faire? Est-ce que vous avez été dans la retenue, ou est-ce que c'est une décision? Est-ce que c'est votre flow comme ça? Quel était votre rapport à ça?
À 90%, j'étais très très content de ça. Les questions stylistiques n'existaient pas, parce que j'avais une grosse quantité d'informations à mettre dans une phrase, et la phrase devait être le plus simple possible. Donc, point de vue technique, c'est vraiment très travaillé. Chaque phrase, je l'ai retouchée une quarantaine de fois. Mais les questions esthétiques étaient vraiment secondaires, parce que j'avais une question pragmatique à chaque fois. Et je pense que Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais d'un point de vue personnel, je pense que c'est plutôt une qualité, ça. Je n'ai pas essayé de faire beau. J'ai des petites montées au lyrique, parfois en fin de chapitre, etc. J'essaie toujours de trouver, en fait... pour moi, le style, c'est trouver la formule la plus heureuse, quoi. Et c'est pas partir de la beauté et puis enchaîner la beauté, parce que ça, c'est ce qu'on appelle la poésie en prose, et ça a quasiment... Enfin, ça a failli tuer le roman dans les années 80-90, quoi. Le roman n'était plus qu'une longue poésie en prose, quasi illisible et très collante aux yeux, aux doigts, et puis c'était trop beau, et puis une nouvelle métaphore qu'enchaînait sur une métaphore très riche, très belle, puis des adjectifs en trop. Non, moi j'ai essayé, effectivement, c'est pas de l'écriture blanche, mais j'ai essayé d'avoir un style non pas neutre, mais un peu informationnel, ouais, et de m'en tenir à ça. Et l'idée, bah, de tourner la phrase de la façon qu'elle soit le plus belle possible après, ouais. La formulation la plus heureuse. Je crois beaucoup à cette histoire de bonheur de l'écriture, quoi. Il y a un moment où je suis content, tiens, elle est bien mise comme ça. Enfin, les mots s'enchaînent bien, il se passe quelque chose. Ouais. Donc il n'y a pas de... Ouais. Donc c'est pas un style blanc, enfin, ça n'a pas été un objectif de...
Et vous n'avez pas le sentiment qu'en disant ça, on dévalue votre livre ? C'est-à-dire, est-ce qu'un sujet sur un sujet pareil, il serait permis d'avoir du style ?
La question du style reste vraiment, vraiment la question la plus problématique de la littérature française d'aujourd'hui. Le style, en général, c'est est confondu avec une certaine grandiloquence, trop souvent, j'ai l'impression.
Nous, on a une collègue qui, quand elle veut emporter le morceau pour vendre un livre, elle termine en disant « puis c'est bien écrit ». Habituellement, ça marche. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais vous, c'est quelque chose qui vous paraîtrait une qualité de dire « c'est bien écrit ».
Il n'y en a pas d'autre. Enfin... Ouais, enfin, grosso modo, bon, j'ai des choses à dire, etc., mais j'ai pas écrit un essai. Enfin, la théorie de l'information est pour moi un objet esthétique où n'existe pas. Donc,
et oui. Vous pouvez comprendre, parce que moi, j'avoue, moi, en lisant ce livre, il y a des moments où je dis, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Est-ce que ça, il y a les théories canon, c'est en train de se dire.
Je comprends, mais
à quel objet j'ai affaire, tu sais, pourquoi l'auteur me met dans la situation. Je suis plutôt un littéraire, de me faire toucher une limite qui est je ne comprends pas. Je relis depuis la quatrième fois la théorie de Shannon, je ne comprends rien. Est-ce que...
Bon, là, c'est clairement un échec de ma part, parce que le but, c'est quand même... Ça peut accrocher, mais...
Non, c'est plutôt un échec de ma part. C'est
non, non, non.
J'aurais dû être meilleur en cours.
Non, parce que j'ai beaucoup corrigé. J'ai entendu Cédric Villani, le mathématicien, il a travaillé sur les équations de Boltzmann, qui sont des équations, justement, qui sont les équations de l'entropie. Et je l'ai entendu expliquer à la radio l'entropie. En deux phrases, il était plus clair que la totalité de ce que j'avais pu écrire sur l'entropie. Donc voilà, bon, c'est ma limite. Mais bon, c'est son métier, pas le mien, etc. Mais,
Non, mais je vous soupçonnais de vouloir jouer avec ça.
Non, j'ai joué clairement avec les effets...
De barrières dans votre livre.
J'ai joué avec les effets d'étrangeté produits par des termes un peu trop techniques, produits par des termes étranges, produits par des termes issus du registre du marketing ou des sciences, etc. Ça, clairement, parce que je trouve qu'il y a un effet poétique par l'effet d'étrangeté.
Il y a un jeu dedans avec quelque chose de franchement illisible. Enfin,
de rupture, oui.
Il y a un moment où il y a un article, enfin, que j'ai compris comme illisible, mais comme volontairement illisible. Ou alors j'étais vraiment fatigué, mais...
Non, j'ai essayé quand même... Non, un tout petit peu too much, peut-être, mais...
J'étais vraiment fatigué, là.
Enfin, je sais pas. Mais après, le problème vient de moi, là, clairement.
Puis vous brouillez tellement les pistes que parfois, même au niveau des personnages, on ne sait plus s'ils existent ou pas. Même titre que, voilà, le héros, on se demande si...
Oui, mélanger un héros avec des personnages réels. Moi, c'est quelque chose qui me perturbe toujours. C'est-à-dire qu'un roman...
Ouais.
Un romancier, c'est toujours inventé, et puis tout d'un coup, Ertanger, qui n'existe pas, croise Thierry Breton. Moi, j'ai rencontré Thierry Breton, quand j'étais jeune, j'ai déjeuné un jour avec Thierry Breton, au Futuroscope, c'est un drame dans ma vie, j'ai rien compris de tout le repas, il était surexcité, j'avais l'impression d'avoir affaire à...
Ça fait très plaisir, parce que...
Il était dans le Futuroscope, il racontait des tas de trucs, j'avais 20 ans, je ne comprenais rien à ce qu'il disait, j'avais peur, il me faisait peur, mais c'était un personnage réel. Et tout d'un coup, ce personnage réel, donc, pour lequel moi j'ai un souvenir, comme d'autres gens ont un souvenir, hein, qui se baladait dans le Futuroscope avec sa petite voiture... devient un personnage réel qui doit dire des choses réelles que vous avez trouvées quelque part. Et il est confronté à quelqu'un qui n'existe pas. Vous faites une distorsion, en fait.
C'est très bizarre. Dans l'absolu, j'aurais préféré que tout soit fictif. Après, c'était pas possible. Parce que... Disons que si Thierry Breton avait été un personnage fictif, il aurait fallu que les entreprises qu'il ait dirigées soient elles-mêmes fictives, il aurait fallu que le pays dans lequel elles opèrent soit elles-mêmes fictif, je m'en serais pas sorti.
D'accord.
Il fallait, et du coup, je me suis dit, bon, bah, quitte à rendre crédible ce type avec les cheveux bouclés qui parle avec une... qui délire presque en parlant de la théorie de l'information avec un enthousiasme fou, et j'ai réellement lu un livre de Thierry Breton à l'époque où il était directeur du Futuroscope, Et c'est quasiment, ça va, il va plus loin que moi quand j'ai plus loin dans la théorie de l'information.
C'est
quoi.
Une sorte de prophète, effectivement.
Ouais, ouais. Et bah du coup, c'était plus crédible que ce soit un personnage réel et de lui mettre dans la bouche. Je me suis amusé de mettre effectivement dans la bouche de mes personnages des choses un peu folles, mais qu'elles ont vraiment dit, ouais.
Et en même temps, Messier.
Messier, je vais un peu trop loin. Ouais.
Messier, vous allez loin. Ouais. Quand même. Lui, tout d'un coup, il prend une dimension.
Mais c'était le seul personnage qui était clairement public, donc c'était le seul où je pouvais me permettre d'aller un peu plus loin. Quoi. Mon droit à la caricature était un peu validé.
Des gens qui ont encore une vie. Enfin, on voit Messier encore apparaître, Messier Breton, c'est pas ce qu'il est devenu, mais enfin, c'est des. Voilà. Enfin, bon. En même temps, c'est très. Vous leur faites un beau cadeau en les intégrant dans un roman, en devenant des personnages de roman. Enfin,
pour l'instant, j'ai des bons retours de mes personnages réels, mais effectivement, c'est un truc. Mon attaché de presse a été surprise la première fois. Elle s'est demandé s'il ne fallait pas ouvrir un service des personnages réels chez Gallimard, parce que c'était bizarre. Ouais, j'y avais pas pensé, à vrai dire. J'étais un peu tout seul pendant que j'écrivais. J'avais pas pensé que oui, ça pouvait être.
Et vous avez envoyé. C'est tout bête, c'est anecdotique, mais vous avez envoyé un exemplaire dédicacé à Thierry Breton?
Non. Mais il a.
Et les frères Bogdanov.
Il a réagi, il l'a lu. Ouais.
Dont on parlait tout à l'heure. Les frères Bogdanov n'apparaissent pas du tout dans ce livre.
Non, parce que j'ai.
On a vraiment l'impression que c'est un livre qui aurait pu être écrit par eux s'ils avaient du talent. Et...
Ben, j'ai une phrase à la fin du livre qu'ils auraient pu écrire. Ouais. Donc. Vous voulez que je la lise? On va faire un test. Enfin, parce que je m'en suis rendu compte après.
Si j'ai le style des Bogdanov qui eux-mêmes ont un style un peu.
J'étais à un salon du livre ce week-end et ils étaient au stand en face de moi. Ils ont fait un triomphe. Et du coup, j'ai essayé de rattraper un peu du triomphe. Donc voilà, c'est ma phrase bogdanovienne. Quand nous atteindrons cette singularité mathématique, les rectangles amovibles de l'espace et du temps qui formaient jusque-là le visage décharné du diable s'entrouvriront pour laisser passer le souffle vivant de Dieu.
Ce serait du style, ça. Hein,
le dernier livre de Bogdanov s'appelle Le visage de Dieu, je crois. Donc.
Et puis ils ont fréquenté très près Guiton, qui quand même était presque un ami personnel de Dieu. Enfin, je l'ai rien. Voilà.
C'est vrai, oui. Voilà.
Mais donc, non, ce que je veux dire, que vous n'avez pas fait rentrer des personnages aussi farcesques que les Bogdanov, quand même. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le livre ne s'éloigne vers la farce, ce qui pourrait être le cas avec toutes ces nouvelles technologies.
Un truc que je.
Comme si vous retenez quand même, malgré tout.
J'ai une sorte de rapport compliqué avec. Avec la farce en littérature, et ça vient de ma lecture contrariée de Pynchon. J'ai lu assez peu Pynchon, et je suis impressionné. Je pense qu'il est peut-être le meilleur romancier vivant. Il sait absolument tout faire, quel que soit le genre qu'il touche. C'est génial. Et je déteste ses romans. Ouais. Parce que c'est trop, il y a trop de truculence, trop de grotesque, trop de. Ça tend trop vers la farce.
Parce que tout. Il y a quand même.
J'ai une volonté de sérieux.
Il y a une grande partie du livre qui se passe dans les milieux du sexe, de la rue Saint-Denis, tout ça, qui aurait pu prêter beaucoup à la caricature, enfin des choses.
Oui, je déteste ça en littérature, la farce, ouais. J'y arrive pas.
Voilà, vous êtes beaucoup dans la retenue. Il y a presque un petit peu de sentimentalisme dans le livre. Est-ce que c'était une faiblesse ou quoi? Il y a une histoire d'amour quand même dans le livre.
Oui, non, c'est un peu.
Il y a même
non,
un petit moment, oui, peu de sentimentalisme. Plus belle la vie, quoi. C'était, ça vous semblait un ingrédient balsacien important ou pas?
Oui, parce que c'était la. Ouais, j'étais un peu obligé, quoi, de faire une sorte d'amour simple à mon personnage principal, quoi.
D'accord. Oui, vous étiez obligé.
Oui, effectivement, c'était pas le. Ouais. Voulant raconter une vie du début à la fin, j'avais des passages.
Vous pouvez pas faire l'impasse sur le sexe, sur l'amour, des choses comme ça.
Voilà, oui.
D'accord.
Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu de. Enfin, revenir sur une personnalité, justement, qu'on croise dans votre roman. Thierry Herman, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur ce monsieur?
Ouais, c'est.
Il existe, lui.
Ouais, il existe. C'est un type qui a fait fortune dans le Minitel, Minitel Rose, avec, je crois, il avait le 3615 P666, je crois. Et qui est une sorte un peu de facteur cheval qui a fabriqué une sorte de ruine cyberpunk dans la banlieue de Lyon. Avec des ruines du 11 septembre et puis des portraits géants de Ben Laden. Enfin, c'est un théoricien du chaos. Je sais pas.
Oui, et puis ce que vous ne dites pas, peut-être par pudeur, c'est qu'il a fait aussi un portrait de vous.
Bah ouais, j'ai découvert ça cet été parce qu'il a découvert qu'il était dans le roman et il a fait un portrait géant de moi. Et
c'est qu'il ne l'a pas fait avant que le livre sorte.
Si, avant que le livre sorte,
ouais. Non, mais dire, prophétiquement, il a su que vous allez faire nous ou il a attendu que le livre existe?
Non, c'était pas hyper prophétiquement. Non, mais effectivement, il est un peu prophète parce qu'il prétend, je le cite dans mon roman, il prétend être en train de travailler sur des actions de bourse le 11 septembre 2001 et avoir vu l'événement 20 minutes avant dans le chaos qui se propageait dans les chiffres. Donc il a un côté de tous les personnages du roman, celui qui va le plus loin et qui est le plus explicitement prophétique. Quoi. Il pense réellement qu'un nouvel âge va advenir.
Et le plus romanesque, hein, il va dans les catacombes, enfin, il y a ce côté un peu...
Ouais. Et on retrouve un peu ça chez Pierre Bélanger, le PDG de Skyrock. On n'est pas de la même famille, hein, mais ça m'a amusé de mettre un homonyme. Il a écrit des bouquins, La convergence, c'est le code, où il réfléchit. Enfin, ça m'intéresse, ces acteurs économiques qui produisent de la pensée.
Alors, parce que l'heure tourne, et vous allez vous... Comment on fait pour passer à autre chose après la théorie d'information? Un petit recueil de poèmes, des choses comme ça, vous allez... Quel est votre avenir d'écrivain maintenant?
J'aimerais bien appuyer un petit recueil de poèmes, effectivement, je trouve que c'est un bon truc.
En alexandrin, ça pourrait être...
Complètement, ouais. J'ai écrit des poèmes en alexandrin, mais je ne sais pas si ça va... Mon éditeur va les accepter.
Oui, il acceptera tout, je pense, pendant un ou deux ans.
Et non, je vais écrire un petit essai, un petit recueil et puis un deuxième roman. Non, j'ai déjà un sujet. J'ai déjà un sujet. Donc ouais.
D'accord.
Qui est?
Je crois l'avoir entendu déjà.
Ouais.
C'est sur les TER, c'est ça?
Sur les TGV, mais
les TGV,
comme
d'accord.
La théorie d'information est sur les Minitel, quoi. C'est un leurre. J'ai fait croire pendant 2 ans que j'écrivais sur les Minitel et c'était pas le vrai sujet. Donc là, pareil.
On vous en dit quand même beaucoup avec les Minitel.
J'en dirais. Mais du coup, ça m'amuse parce qu'il y a un côté trilogie de la grandeur technologique française, vintage, quoi. Des romans possibles sur l'Airbus, sur la fusée Ariane, sur...
Il y a des mécénats à faire, là. Enfin, je veux dire, il y a des... Voilà. Tous les gens qui vont se dire, est-ce que je vais être dans le prochain roman?
Effectivement, non, je pourrais négocier, ouais, un mécénat avec la SNCF, voyager gratuitement pendant 2 ans. Mais bon, ça m'obligerait à ne dire que du bien du TGV. Je ne sais pas si je...
Après, le romancier est libre. Merci à tous d'être venus.